Bonjour, bonjour, Yves au micro, pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui va commencer décidément, comme à l'habitude, et qui, respectant la tradition, vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, plus ou moins pertinente, les petites images qui bougent, si possible, sur des grands écrans, mais aussi un peu partout maintenant, y compris sur ce truc noir. Ah oui, la télévision, je ne me souvenais plus du nom. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à la bonne ville de Vienne. Alors, pas Vienne à côté de Lyon, les Viennois m'en excuseront, mais les Viennois d'Autriche, une ville, ma foi, fort belle, mais avec un passé parfois fort douloureux, qui évidemment est largement évoqué dans les films. Et donc, on va s'intéresser à quelques films qui se déroulent et qui sont filmés, c'est pas toujours le cas, hein, vous le savez, mais qui sont filmés dans les rues et les faubourgs et les quartiers de cette bonne ville. Alors, je pensais terminer l'émission sur ça, mais comme je suis très bavard, paraît-il, je préfère commencer avec le film. Des films sur Vienne, comme ça au moins c'est fait, on n'y reviendra plus et on est sûr de l'avoir écouté, surtout que c'est aussi une musique de film ultra célèbre, donc je vous propose de faire un petit jeu, on va commencer, vous allez écouter ça. Vous avez trouvé ? Ah ben c'est que vous êtes un grand fan de 24 notes secondes. Et bien oui, c'était la musique du Troisième Homme, un film de Carol Reed tourné en 1949 avec Joseph Cotten et Orson Welles dans les rôles principaux. Et cet instrument, qu'on peut juger bizarre parce qu'on ne l'entend pas très souvent, qu'on entend, et bien c'est la sitar d'Anton Karas. Alors voilà, Anton Karas, j'aurais peut-être fait une émission sur lui, mais il me semble que c'est la seule chose pour laquelle il est vraiment connu. Mais il faut dire qu'il est quand même mondialement connu, cette partition, cette musique font partie des musiques de films iconiques. Quand on pense à la musique du film, on pense souvent à celle-là. Et donc, pour ce film de Carol Reed, tourné en 1949, alors qui était pratiquement, je dirais, contemporain de ce qu'il racontait, puisque c'était un scénario de Graham Greene, le grand romancier anglais, en avait écrit le scénario, mais pas d'après l'un de ses romans, c'est un scénario original, et le film se passait justement dans la Vienne de l'immédiate après-guerre, ravagée évidemment par les combats de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une ville partagée entre les troupes alliées, dans lequel grouillaient déjà, mais enfin apparemment à Vienne c'est une tradition de longue date, les espions, et le film était une sorte d'histoire d'espionnage éclairée par la présence charismatique, et charismatique est un mot trop faible, d'Orson Welles, dont on dit que non seulement il était l'interprète principal du film, mais qu'il en avait tourné certaines parties. Et de fait, on peut reconnaître son style, celui de Citizen Kane ou celui de La Splendeur des Amberson, on peut le reconnaître dans certaines parties du film. Mais en même temps, Carol Reed n'était pas non plus le premier venu, ma foi. Tout ça restera entre eux, c'est de l'histoire, et c'était surtout pour évoquer la ville de Vienne qui était donc magnifiquement filmée. La photographie était signée de Robert Krasker. Des fois, il faut les citer, les photographes, car vraiment, surtout en noir et blanc, ils faisaient des merveilles. On va rester évidemment à Vienne, c'est le sujet de ce jour. On va rester aussi après-guerre, mais on va changer complètement de genre, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'une production Disney, tournée en 1963 par Arthur Hiller. Dans les rôles principaux, on retrouvait Robert Taylor, Lily Palmer, Kurt Jürgens et quelques autres. Et le film racontait, ou plutôt était adapté, de l'histoire vraie du colonel Alois Podjalski, interprété par Robert Taylor, qui était pourtant un Américain pur sucre, mais bon, c'est comme ça le cinéma américain, et qui, juste après la guerre, alors que les troupes alliées, et notamment les méchants soviétiques, évidemment, s'apprêtaient à déferler sur Vienne, eh bien, n'avait eu de cesse que de protéger les chevaux dont il avait la garde, des chevaux d'une espèce toute particulière. Je cherche si je la retrouve sur ma petite fiche. Oui, les chevaux lipizzans, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être les amateurs le sauront, une espèce bien particulière de chevaux utilisés dans l'équitation, qui est aussi un truc typiquement viennois, si on me passe l'approximation. Et donc le film racontait, inspirait, en tout cas s'inspirait de cette histoire vraie, mais il rencontra un très très faible succès, puisque le Variety, qui est la bilbe américaine, le qualifia d'inepte, et que le Time, alla jusqu'à dire que les chevaux étaient plus intelligents que la plupart des acteurs qu'on trouvait dans le film. Oh, que c'est méchant! Allez, on écoute un extrait de la bande originale. Alors là encore, elle est signée d'un total inconnu, Paul Smith, qui est destiné à le rester. Et ça s'appelle Le Grand Retour. Je ne vous ai même pas dit le titre. Miracle of the White Stallions in English. Le Grand Retour en français dans 24 notes secondes.
autumn of their third year, when the Lipizzaners are turning from dark to white, the finest stallions are selected for the famous Spanish riding school in Vienna. Named for the Spanish origin of the Lipizzan horses, the school was built in 1735, when every court in Europe patronized the art of classical riding. Today, it is the only home of that art in the world. It has survived wars and occupations, crowns and republics. But near the end of the Second World War, it was almost lost. In the spring of 1945, a great adventure began for the White Horses of Vienna.
Ah ben voilà, ça c'est ce que j'appelle de la bande originale. Il y avait des vrais hennissements dedans, vous les avez sans doute entendus. Et puis il y avait la voix mal, très mal, de Robert Taylor, plus connu peut-être pour ses activités anti-communisme. Justement, ça tombait bien dans le film. Un extrait de la bande originale du Grand Retour, un film d'Arthur Hiller, un réalisateur qui ensuite s'illustrera peut-être un peu mieux dans la comédie, notamment américaine, sortie en 1963 et qui racontait l'histoire vraie, comme Robert Taylor vous le disait, de l'école espagnole d'équitation qui, contrairement à ce que son nom indique, est située à Vienne, en Autriche, dans la grande tradition autrichienne, celle du concert du Nouvel An, je vais y arriver, ce genre de choses. Et bref, le film, comme je l'ai évoqué, sans l'avoir vu, très injustement, comme je l'ai évoqué avant, n'a été ni sans doute un très grand chef-d'œuvre au cinéma, ni sans doute un très grand succès, mais en tout cas, il se passait à Vienne, cette chère ville de Vienne, qui est le sujet de ce jour de 24 notes secondes. Et on va rester à Vienne, mais alors vraiment, on va faire un tournant à 180 degrés, peut-être même 360, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film de Guido Zurli sorti en 1971, duquel, je l'avoue, j'ignore tout, sauf son résumé qui est quand même alléchant, j'y reviens. Ça s'appelle L'étrangleur de Vienne. Les rôles principaux sont tenus par Victor Buono et Franca Polezello. Jamais entendu parler non plus, le réalisateur non plus, mais l'histoire, eh bien, c'est celle d'un boucher, à Vienne, donc, vous l'avez compris, qui est libéré de l'asile et qui entreprend de transformer ses jeunes victimes en saucisse. Donc je vous laisse imaginer la chose. Alors ça aurait pu tenir de la comédie noire à la Ferrari, mais apparemment ça tient plutôt de ce genre dont les Italiens sont si friands et les seuls vraiment à pouvoir l'exercer, du giallo, c'est-à-dire dans les années 60 avec notamment Dario Argento et quelques autres, des films policiers sanglants où on voit des tueurs masqués assassiner leurs victimes, si possible avec un raffinement sadique des plus exacerbés, si possible aussi à l'arme blanche, sinon c'est pas rigolo parce qu'on voit moins de sang, de blessures. J'arrête ? Oui, j'arrête. On va écouter plutôt un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Alessandro Alessandroni. Là encore, total inconnu. Allez, on part dans l'inconnu avec L'étrangleur de Vienne dans 24 notes secondes. Thank you. Ça ressemblait tellement à une musique d'Ennio Morricone que je suis allé vérifier si Alessandro Alessandroni n'était pas un pseudonyme d'Ennio Morricone, mais non, c'est bien un compositeur que j'ai injustement méconnu puisqu'il a composé une cinquantaine de bandes originales, donc une prochaine émission de 24 notes secondes, c'est promis, pour un extrait donc de la bande originale de L'étrangleur de Vienne, Lo Strangolatore di Vienna, oui je sais c'est nul, un film de Guido Zurli sorti en 1971 et qu'on a terriblement envie de voir après tout ce que le mal que j'en ai pu dire, c'est comme Le Grand Retour, on a vraiment envie de voir si les chevaux jouent mieux que Robert Taylor. Ça, par contre, c'est peut-être pas très difficile. Mais que je suis méchant aujourd'hui. On va plutôt enchaîner sur un film à l'eau de rose. Ça sera mieux venu. Un film qui nous permet d'évoquer ce cher Arthur Schnitzler. Comment ne pas évoquer l'un des plus grands dramaturges viennois, qui est une sorte de quintessence de Vienne de la fin du 19e au début du 20e siècle. Et donc, Arthur Schnitzler avait écrit une pièce de laquelle Max Ophüls avait tiré en 1933 un film intitulé « Libellaille ». Et en 1958, Pierre Gaspard VIII eut la curieuse idée d'en faire un remake. Curieuse idée parce qu'il se trouve que l'interprète principal de ce remake, de ce film qui s'appelle cette fois Christine, eh bien c'était Romy Schneider et que l'interprète principal du film de Max Ophüls en 1933, eh bien c'était Magna Schneider, la propre mère de Romy Schneider. Alors je sais, on aurait peut-être aussi pu passer des bandes originales de Sissi dans le cadre d'une émission sur Vienne, mais je n'aurai qu'un mot à ça, Nono. Voilà, ça sera clair comme ça. Mais on va s'en approcher puisque l'histoire racontait une romance à l'eau de rose entre Romy Schneider et Alain Delon. Et oui, c'est sur ce film-là, tout simplement, que Romy Schneider et Alain Delon se rencontrèrent. Et ce fut d'ailleurs un coup de foudre puisque c'est après le tournage de ce film qu'ils se fiancèrent pour une histoire d'amour de laquelle il n'est plus temps maintenant de parler. Comme il n'est plus guère temps de parler du film, car ce fut ce genre de film qui vieillissent assez mal. Une romance filmée comme telle et assumée comme telle, avec deux interprètes charismatiques, Romy Schneider, Alain Delon, nul ne pourra le contester, mais pour un scénario qui était bien faible. Voilà, je vous l'ai mal vendu. Par contre, la musique, elle est signée de Georges Auric, qui n'est quand même pas n'importe qui, et elle est bien, la musique, forcément, puisque vous êtes dans 24 notes secondes.
Thank you.
Et voilà, vous pouvez relâcher votre partenaire, surtout que vous avez marché sur les pieds pendant toute cette valse. Mais tout comme il était impossible d'évoquer Vienne au cinéma sans passer un extrait de la bande originale du troisième opus de Carol Reed, voire plus haut, il était impossible de faire une émission sur Vienne au cinéma sans passer une musique de valse qui est par tradition ou presque la musique de la ville de Vienne. Alors j'aurais pu aussi vous passer le beau Danube bleu, mais ça vous aurait fait penser à 2001 Odyssée de l'espace, bien sûr, qui est loin de se passer à Vienne, comme vous l'avez deviné. Là, c'était un extrait de Christine, un film de Pierre Gaspard VIII, tourné en 1958 avec Romy Schneider, bon, qui était tout à fait à sa place dans le rôle, Alain Delon dans le rôle de Franz Lobheimer, là c'était déjà moins sûr, et la française Micheline Prel dans le rôle de la baronne Lena Eggersdorf. En fait, il n'y avait que des Français, à part Romy Schneider, pour jouer des interprètes viennois. Il y avait même Jean-Claude Brialy, qui est aussi viennois que moi, je préfère même ne pas le dire. Ma foi, c'est pas un film qui va rester dans les annales, mais on a quand même écouté une valse. C'était l'essentiel pour évoquer cette ville de Vienne que on pourrait évoquer aussi par la peinture, avec évidemment les peintres de la sécession, Klimt, Schiele. On pourrait évoquer aussi ce cher Sigmund Freud. On pourrait évoquer ce cher Stefan Zweig, qui fut sans doute l'un des, je dirais, des meilleurs écrivains, la quintessence viennoise par excellence. Et comme Stefan Zweig l'écrivait dans Le Monde d'hier, eh bien en fait, on pourrait évoquer un monde complètement disparu, mais qui fit de Vienne, entre, je dirais, la fin du 19e siècle et puis la Seconde Guerre mondiale, et puis même la fin de l'Empire austro-hongrois, qui déjà marqua quelque chose de la fin de la ville. Ma foi, elle est toujours là, toujours aussi belle. Vous pouvez toujours aller au Prater, ailleurs, je vous le conseille. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale, là encore rien à voir, d'un film de Marc Fitoussi, sorti en 2020, ça s'appelle Les Apparences. Je ne l'ai pas vu, hein, donc effectivement, je n'en ai que l'apparence. Dans les rôles principaux, il y a Karine Viard et Benjamin Biolay. Comme je l'ai dit, le film est sorti en 2020, et du coup, il fut victime de cette petite chose qu'on a appelée le Covid à l'époque. C'était un peu injuste, mais c'était comme ça. Donc on va se rattraper en écoutant un extrait de la bande originale qui est signé de l'original Bertrand Burgala dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Auf Wiedersehen. Ciao.